Vous êtes sur RTL.
RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et à la une, la crainte de la panne sèche.
Le blocage de plusieurs dépôts pétroliers et la grève de jeudi créent une ruée vers les stations-service avec déjà des conséquences, Laura Mauchi.
Oui, près de 10% des stations manquent de carburant ce matin.
On vous retrouve dans le journal, Laura. Pas vraiment une réunion entre amis, Emmanuel Macron, Donald Trump et le président turc Erdogan se retrouvent au sommet de l'OTAN à Londres dans un contexte très tendu. Et puis la haute autorité pour la transparence de la vie publique créée après l'affaire Cahuzac a-t-elle rendu les ministres et les parlementaires plus vertueux? Ce sera la question du 8h.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Mais tout d'abord, un message aux contribuables bordelais. Sachez-le, vous allez sans doute devoir payer pour le dispendieux train de vie de Chantal Goya. L'interprète de Bécassine et son mari, Jean-Jacques Debout, sont dans le viseur de la Banque de France, qui a relevé les curieuses pratiques du Crédit Municipal de Bordeaux, l'ancien Mont-de-Piété. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'escroquerie. Bonjour Jean-Marc Terrier.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Le couple fortement endetté a contracté un très gros prêt qui y pose question.
Oui, 2 millions d'euros, c'est le montant du crédit accordé à Chantal Goya et son mari. Tous les deux sont criblés de dettes, interdits bancaires, refusés dans tous les établissements. Mais le Crédit Municipal Bordelais a retenu la rentabilité des droits SACEM, c'est-à-dire les fameux droits d'auteur, pour finalement gager ce crédit et par conséquent l'autoriser.
Donc plus de 2 millions que le Mont-de-Piété ne reverra sans doute jamais, ce sera pour le contribuable. Mais il n'y a pas que ça, Jean-Marc.
Eh bien oui, autre montage pour le moins étrange relevé par la CPR, le gendarme du monde bancaire. Il y a ces 8 millions d'euros demandés par un couple du sud de la France pour financer un EHPAD et investir dans des œuvres d'art. Alors là, le dossier n'a pas été accordé, mais il a tout de même été instruit. On trouve également des clients avec des comptes en Suisse, au Luxembourg. Et puis ce million d'euros validé pour un couple dont on dira qu'il est en pleine force de l'âge, puisqu'à la fin du remboursement du crédit, ces clients auront respectivement 90 et 100 ans. Le crédit municipal est fidèle à ses traditions. C'est en tout cas l'avis de son directeur, Christophe Leray. Je vous propose de l'écouter.
C'est une vie d'établissement de crédit et d'aide sociale et nous tâchons de faire le mieux possible ce travail de d'aide sociale de temps en temps. Il pourrait arriver que nous commettions des erreurs, pas de fond, de forme, et dans ce cas, nous tâchons de nous corriger.
Officiellement, le bilan 2018 affiche 3816 prêts accordés pour un montant moyen de 14 000 euros, mais si des dérives budgétaires sont avérées, eh bien les Bordelais risquent à leur tour de contribuer à cet esprit social et solidaire, puisqu'il y a de fortes chances pour que ce soit le contribuable bordelais qui mette à la fin la main à la poche.
Ils seront ravis de l'apprendre ce matin sur RTL. Merci Jean-Marc Terrier.
RTL Matin, 8h02.
Pas ou peu de transports en commun jeudi, pas d'essence non plus. On peut se poser la question en tout cas ce matin.
Quatre dépôts de carburant sont toujours bloqués dans l'Ouest. Bonjour Laura Mauchi.
Bonjour.
Le cinquième dépôt à Verne-sur-Sèche près de Rennes est en cours d'évacuation.
Oui, vers 4h ce matin, 130 gendarmes sont arrivés devant l'entrée du dépôt qui est bloqué par environ 50 pelleteuses et camions depuis jeudi soir. La préfecture a ordonné dans la nuit l'évacuation des manifestants. Sonia a été réveillée par les forces de l'ordre.
On était couchés parce qu'on dort dans nos camions. Et on a été sortis. Le démarrage a été très très violent. Bon, j'ai les gendarmes qui arrivent, je vais être obligée de raccrocher.
Votre mari, donc, il est en garde à vue en ce moment.
Deux personnes sont en effet en garde à vue, même si l'opération s'est déroulée globalement dans le calme, selon la préfecture. Quelques engins de chantier sont encore sur place. Les approvisionnements des camions-citernes devraient pouvoir reprendre d'ici 9h30.
Et ces blocages, Laura Mauchi, font craindre le pire aux automobilistes, sans compter la grève de jeudi qui se profile. Panique à la pompe, on dirait.
J'ai de l'essence, mais je fais le complément parce que je sais que ça va être le bordel, donc je prends mes précautions. Au cas où, oui, je sais qu'il y a certains points de ravitaillement qui commencent à être un petit peu touchés. Je prends mes dispositions.
C'est la grève du 5 et puis c'est les risques aussi de la suite de la grève du 5. On a des annonces nous disant que peut-être ça va se prolonger. Moi, c'est ça qui me fait peur, en fait, qui me pousse à remplir mon essence et mon plein et de faire mon plein.
Un propos recueilli par Morad Jabari, les automobilistes craignent une pénurie. Ils se ruent donc massivement à la pompe, ce qui crée de fait une pénurie, c'est le serpent qui se mord la queue. Je reviens vers vous, Laura. On a combien maintenant de stations-service en rupture?
Alors environ 400 stations sont en rupture totale et 400 autres en rupture partielle sur les 11 000 stations du pays, c'est à peu près 10%. Cela concerne principalement l'Ouest. Il est très difficile ce matin de faire le plein entre Avranches et La Rochelle. Le Finistère a dû réquisitionner 11 stations pour les véhicules d'urgence, mais les tensions sur le carburant gagnent d'autres régions. Une quinzaine de stations sont à sec en Île-de-France ce matin, une dizaine dans les Hauts-de-France, autour de Marseille et dans le Languedoc, et ça commence tout doucement dans l'Est.
Merci Laura Mauchi. Peu de secteurs se tiendront à l'écart de la grève contre la réforme des retraites. Plusieurs syndicats enseignants appellent à rejoindre le mouvement. Les revendications sont nombreuses, elles ne concernent pas seulement le nouveau calcul des pensions. Difficile de prédire aujourd'hui l'ampleur de la grève jeudi dans les écoles. À Solesmes dans le Nord, les parents, Franck Hanson, savent déjà qu'ils devront se débrouiller.
Oui, les deux écoles primaires et maternelles seront quasiment à l'arrêt dans la commune. Sur 14 enseignants, 13 devraient être grévistes, comme cette institutrice de primaire.
C'est la première fois depuis 10 ans que l'école est fermée. On marque le coup pour nos retraites et puis pour les conditions de travail aussi.
Vous allez pénaliser quand même les parents peut-être
C'est le principe de la grève. Apparemment, ils s'organisent. Aujourd'hui, on n'avait pas de chauffage, ils se sont organisés.
La mairie de Solesmes va assurer un service de garde, mais uniquement pour les parents qui travaillent, faute de personnel suffisant. À la sortie, les mamans sont plutôt compréhensives.
Franchement, ceux qui font grève, je les soutiens, il n'y a aucun souci. Comme je ne travaille pas, je peux les garder à la maison. Et avec les copines, on est solidaires. Donc s'il y a des mamans qui travaillent, qu'il faut leur garder les enfants, on garde les enfants. On va faire des activités manuelles pour Noël.
Comme le papa est là, ça va être plus facile pour nous. On ne va pas les laisser dans la rue.
Il y a un accueil, mais après, pour les repas, on ne sait pas comment ça se passe.
J'ai la possibilité de prendre ma journée.
Parfois, il faut, même si ça nous embête.
Mais pour certaines familles, la journée sera plus compliquée.
C'est pas évident pour les parents qui travaillent à s'organiser, ça c'est sûr. On sait qu'il y aura des grévistes, mais qui, on ne sait toujours pas. C'est de l'organiser. Sur la dernière minute.
Si besoin, les élus ont prévu d'assurer eux-mêmes de la surveillance à la garderie.
Reportage de Franck Hanson.
Et puis c'est donc officiel, la CFDT cheminots rejoint le mouvement.
Oui, le syndicat n'a pas obtenu les garanties espérées de la part du gouvernement. Il appelle donc à son tour ses troupes à se mettre en grève reconductible jeudi. Et comme tous les matins, cette semaine dans ce journal, nous allons partir à la rencontre de ces fameux cheminots. Qui sont-ils? Que font-ils? Combien gagnent-ils? Et pourquoi craignent-ils pour leur retraite? Le portrait d'une femme que vous avez peut-être croisée au guichet à la SNCF, Éric Vanier.
Caroline a découvert le métier de vendeuse de billets de train en faisant des remplacements au guichet pendant ses études et elle y est restée.
Je suivais une fac d'anglais pour devenir prof d'anglais et en fait quand j'ai découvert le guichet, je me suis rendu compte que je m'étais trompée d'orientation professionnelle et que le commerce, la vente, ça me plaisait énormément. J'adore le contact avec les voyageurs. À l'époque, ça a embauché. J'ai réussi à être embauchée.
Et 20 ans après, Caroline n'a aucun regret.
Moi, j'ai travaillé à Saint-Malo, je travaillais à Dinard, je travaillais à Montfort-sur-Meux, à Rennes, j'ai fait plein de gares, de la grande gare à la petite gare et à chaque fois, il y avait un esprit de travail d'équipe qui était super. L'ambiance cheminote sur les lieux de travail.
C'est la grande famille SNCF, comme l'on dit, la solidarité entre les cheminots. Caroline aussi aime son métier, car derrière son guichet, elle voyage dans sa tête.
Hier, j'ai fait un billet pour aller à Malaga, en Andalousie. J'ai fait un billet pour aller à Düsseldorf. On a beaucoup de renseignements pour les fêtes de Noël, pour les vacances de février déjà. On fait plein de choses. Et ils nous le disent tous, heureusement que vous êtes là.
Mais quand elle regarde son bulletin de salaire, elle a un peu moins le sourire.
Eh ben, au bout de 20 ans d'ancienneté, je suis à 1650 euros par mois, net. Mais en ayant travaillé pendant pratiquement toutes ces années-là, deux dimanches sur quatre ou trois week-ends sur cinq. Hein.
Et quand elle évoque sa future retraite, là, elle fait carrément la grimace.
Oui, je m'inquiète beaucoup. Hein. L'âge de départ possible, c'est 57. Moi, je vous raconte pas la somme que je vais avoir. Je pourrais pas vivre avec. Donc c'est bien de dire, oui, les cheminots peuvent partir à tel âge, mais on n'aura rien pour vivre. Donc on sera comme tout le monde, on continuera à travailler.
Pour avoir suffisamment d'années de cotisation et une pension correcte.
Un portrait signé Éric Vanier. À la SNCF, justement, l'ouverture à la concurrence commence aujourd'hui. On entre dans le dur. À compter de ce mardi, les régions qui le souhaitent pourront faire appel à un autre prestataire que la SNCF pour leur TER, ou en tout cas pour une partie de leur TER. Les premières régions à sauter le pas sont la région Grand Est, les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Et nous allons en débattre à 8h20 avec nos invités. Le bilan miraculeux après cet éboulement, spectaculaire dans le sud-est du pays.
Seuls deux blessés légers dans l'effondrement d'un rocher surplombant le village des Mets dans les Alpes de Haute-Provence, conséquence des intempéries de ces derniers jours. Trois maisons ont été détruites, une vingtaine d'habitants évacués. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est rendu sur place dans la soirée.
Dans un court instant, on va voir si le temps est effectivement en état de mort cérébrale.
RTL 8h09.
RTL Matin.
RTL 8h10, la suite du journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
Ils auront sans doute beaucoup de choses à se dire.
Emmanuel Macron et Donald Trump se voient à Londres aujourd'hui en marge du sommet de l'OTAN. Le président turc Erdogan sera aussi présent. Emmanuel Macron a critiqué il y a quelques semaines le comportement des Américains et des Turcs en Syrie en disant que l'OTAN, qui est censé assurer notre protection, était en état de mort cérébrale. Une phrase qui décidément ne passe pas. Alors c'est vrai que l'alliance a été utile, mais aujourd'hui, Pierre-Julien,
Indiscutablement, l'OTAN a rempli son rôle pendant la guerre froide face à l'Union soviétique. Rappelons ce fameux article 5 du traité de Washington qui affirme que si un des pays alliés est attaqué, les autres lui porteront assistance mutuelle, c'est-à-dire jusqu'à l'emploi de l'arme nucléaire en premier lieu américaine. Eh bien, cette dissuasion a marché et en fait, c'est bien après la chute du mur que la clause a été déclenchée. Les attentats du 11 septembre 2001 ont provoqué, vous en souvenez, l'intervention de l'Alliance en Afghanistan. Autre élément, l'Europe qui espère créer au moins une solide capacité d'action militaire autonome a dû tirer les leçons de l'embrasement de l'ex-Yougoslavie dans les années 90. C'est l'OTAN et les États-Unis qui ont ramené la paix dans les Balkans. Aujourd'hui, les nouvelles menaces, terrorisme djihadiste, velléité russe et chinoise, le cyber, la militarisation de l'espace nécessitent, c'est vrai, une clarification de la stratégie en fonction déjà des interrogations sur le soutien américain et du rôle de la Turquie d'Erdogan qui achète des missiles russes, entre dans le nord syrien pour en repousser les Kurdes et signe même un protocole d'accord maritime avec la Libye au détriment de la Grèce, pourtant membre de l'OTAN, elle aussi.
Pierre-Julien, Emmanuel Macron et Donald Trump ne manqueront pas de sujet de discussion tout à l'heure. Washington menace depuis cette nuit d'imposer de nouveaux droits de douane sur d'autres produits français comme le champagne et le roquefort, une réponse aux taxes sur les GAFA. Paris n'a pas à reculer, fait savoir à l'instant le gouvernement français. Avis de gros temps sur le MoDem, l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif au Parlement européen progresse. L'ancienne eurodéputée Sylvie Goulard a été mise en examen pour détournement de fonds publics et François Bayrou lui est convoqué vendredi par les juges.
RTL 8h12.
C'était un peu le monsieur la vertu de la vie politique française. Jean-Louis Nadal passe la main dans quelques jours.
Le magistrat présidait la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Cette instance avait été créée, souvenez-vous, dans la foulée du scandale Cahuzac.
Les règles qui régissent l'établissement, le contrôle et la publication des patrimoines des responsables publics seront entièrement revus.
François Hollande, c'était le 10 avril 2013.
Alors, la Haute Autorité a-t-elle porté ses fruits? Les ministres et les parlementaires sont-ils désormais irréprochables? Eh bien, c'est la question du 8h.
Et c'est avec vous, Marie-Bénédicte Allaire, bonjour.
Bonjour.
A-t-on fait des progrès en matière de probité et de transparence?
Oui, on a progressé. Près de 11 000 responsables politiques et publics ont été contrôlés. Au début, certains rechignaient. Ça a changé. Résultat, une vingtaine de ministres a dû rectifier ses déclarations fiscales. Et plus largement, la justice a été saisie de 73 infractions à la probité. Une douzaine a fait l'objet de condamnations et des enquêtes sont encore en cours.
La haute autorité peut-elle savoir si un élu triche sur sa déclaration?
Eh bien, elle reste discrète là-dessus mais reconnaît qu'elle peut croiser ses données avec celles du fisc, par exemple, et qu'elle se saisit des signalements faits, notamment par la presse. En revanche, il n'existe pas de délit d'entrave contre les récalcitrants. Un député LR n'a toujours pas publié son patrimoine.
Il y a encore des progrès à faire pour plus de transparence?
Oui, en particulier pour contrôler l'influence des lobbies. Les parlementaires ne sont pas tenus de dire qui ils rencontrent. Seule une poignée le fait. Et on ne sait pas non plus qui inspire certains amendements au projet de loi pourtant rédigé par des lobbyistes eux-mêmes.
La question du 8h avec Marie-Bénédicte Allaire.
En football, and the winner is, sans surprise, Lionel Messi qui a reçu son 6e ballon d'or. C'est un record. La 16e journée de Ligue 1 commence ce soir. 4 matchs à suivre en fil rouge sur RTL. Angers, Marseille, Bordeaux, Nîmes, Brest, Strasbourg. Coup d'envoi 19h et à 21h. Lyon recevra Lille.
L'histoire du jour.
Le roi du téléphone au Japon. Un retraité a été placé en garde à vue pour avoir appelé 24 000 fois en 2 ans le service client de son opérateur téléphonique. La société d'après lui ne respectait pas son contrat. 400 appels passés pour la seule semaine dernière. Il composait le numéro et raccrochait. Se faisait du sushi.
Non mais, oui, bien sûr, mais ils l'ont mis en tôle, mais il nous a vengé cet homme.
Et en garde à vue.
Ah bon, en garde à vue, ça va,
pas encore en prison.
Va sortir très bientôt. C'était le journal de Jérôme Florin.